Chapitre 20. La passe de Jianghai. Au pied de la masse sombre de la colonne vertébrale du monde, Rand guidait J.A.D.N. sur la pente rocheuse qui prolongeait les contreforts, donnant naissance à la passe de Jianghai. Ramenant au statut de naine toutes les autres chaînes de montagnes, le mur du dragon tutoyait le ciel, ses pics couronnés de neige semblant défier le soleil de plomb de l'après-midi. Les plus hauts transperçaient les nuages qui paraissaient se gausser du désert des Aïels, en lui promettant des pluies qui ne viendraient jamais. D'après ce qu'on disait, des hommes qui avaient tenté d'escalader ces sommets avaient dû rebrousser chemin, broyés par la peur et presque incapables de respirer. S'ils ne comprenaient pas au nom de quoi on pouvait avoir envie d'escalader un mont, Rand imaginait parfaitement que la peur puisse empêcher les poumons de s'emplir d'air quand on s'attaquait à un défi si démesuré.
« Même si le grand jeu dévaste le Kairien, »
disait Moiraine à côté du jeune homme.
« Ces gens te suivront tant que tu leur montreras ta force. Donc sois ferme avec eux, mais également juste. Je te le demande. Un dirigeant équitable. »
Rand tenta d'ignorer le discours de la Aes Sedai, s'en abstrayant comme il parvenait à s'isoler du vacarme que produisaient les chariots de Kadéré derrière lui. Si la caravane avait enfin laissé derrière elle les ravins et les gorges du désert, les contreforts presque aussi désolés n'étaient guère plus cléments pour les véhicules. À l'évidence, en plus de 20 ans, personne n'avait suivi ce chemin. S'il lui en laissait l'occasion, Moiraine lui tenait des discours des premières heures de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ses cours pouvaient porter sur des détails, le protocole en vigueur à la cour de Kairien, du Saldaea ou d'un autre pays, ou sur des sujets fondamentaux comme l'influence des Fils de la Lumière ou le poids des considérations commerciales dans la réflexion pouvant pousser un dirigeant à entrer en guerre. On eût dit que l'Aes Sedai voulait lui donner l'éducation convenant à un noble avant qu'il soit arrivé de l'autre côté de la chaîne des montagnes. Très souvent, ce qui ne laissait pas de surprendre Rand, les propos de Moiraine étaient le fidèle écho de ce qu'on nommait le bon sens à Chandemonde. Cela dit, presque aussi souvent, c'était l'exact contraire. De temps en temps, Moiraine rompait avec sa routine et lui lâchait une information sortant de l'ordinaire. Un jour, ne lui avait-elle pas dit qu'il ne devait se fier à aucune femme à la tour à part elle et Gwen et Lane Nineveh? Un autre, elle lui avait appris qu'Elaïda était devenue la nouvelle chère d'Amirlin. Bien qu'elle eût juré d'être docile, l'Aes Sedai avait refusé de révéler à Rand comment elle avait eu cette information. À l'en croire, ce secret ne lui appartenait pas, et ce n'était pas à elle de le dévoiler. Rand avait immédiatement songé au matriarche capable de marcher dans les rêves, mais il n'avait bien entendu pas réussi à leur tirer un mot sur la question. Si seulement il avait pu leur faire prêter le même serment qu'à Moiraine. Dès qu'elle le pouvait, ses femmes se mettaient entre les chefs et lui, comme si elles voulaient qu'il passe par elles pour contacter les dirigeants à Yel. En cet instant, Rand n'avait aucune envie de songer à Elaïda ou au matriarche, et encore moins d'écouter Moiraine. Pour l'heure, il voulait étudier la passe qui serpentait entre les montagnes, comme si la hache d'un géant s'était abattue pour les couper en deux, sans jamais y parvenir, mais en y laissant de profondes entailles. Encore quelques minutes de chevauchée soutenue, et il y serait. Sur un côté de l'entrée de la passe, une falaise avait été lissée sur une largeur de 300 pieds, puis sculptée pour représenter un serpent enroulé autour d'un bâton qui devait faire 1800 bons pieds de haut. Un monument, un point de repère, ou le sceau de quelques souverains. Quoi qu'il en fût, un vestige d'une nation disparue bien avant l'époque d'Arthur el de Faucon, voire celle des guerres des Trollocs. Rand avait déjà vu de tels témoignages d'un passé que nul ne gardait en mémoire. Et Moiraine elle-même n'avait pas été en mesure d'éclairer sa lanterne. De l'autre côté de l'entrée de la passe, à une telle hauteur que Rand n'était pas bien sûr de voir ce qu'il pensait voir, juste à la lisière de la couronne de neige, se trouvait quelque chose de plus étrange encore. À côté, le premier monument, si antique fût-il, avait quelque chose de commun, voire de banal. En plissant les yeux pour mieux voir, Rand aurait juré qu'il s'agissait de ruines dont la pierre grise se détachait particulièrement bien sur la roche presque noire de la montagne. Plus bizarre encore, une sorte de quai fait du même matériau, un quai, oui, comme dans un port, semblait accroché au flanc du pic. Si l'imagination de Rand ne lui jouait pas des tours, tout cela était antérieur à la dislocation. Et à cette époque, la face du monde avait considérablement changé. Les contreforts des montagnes, en ce temps-là, étaient peut-être bien le fond d'un océan. Rand décida de demander à Asmodéane. Même s'il en avait eu le temps, il ne se serait pas risqué à une telle escalade pour voir par lui-même de quoi il retournait. Au pied du serpent géant se dressait Taïen, une ville de taille moyenne entourée d'une haute muraille. Un vestige du temps où le Kairien avait le droit d'envoyer des caravanes dans la tierce terre. À cette époque, des biens arrivés à flot de Chara par la piste de la soie, et... Rand remarqua soudain que des oiseaux tournaient au-dessus de la cité, et vit qu'il y avait des taches sombres à intervalles réguliers sur toute la longueur de la muraille grise. Se dressant sur ses étriers, Matt leva vers le ciel ses yeux protégés du soleil par les larges bords de son chapeau. Aussi inexpressif qu'à l'accoutumée, l'âne plissait lui aussi les yeux. Un souffle de vent, déjà plus frais ici, faisant onduler sa cape caméléon, toute la partie de son corps comprise entre les épaules et les pieds, sembla se fondre dans le décor composé de buttes rocheuses et de buissons rachitiques.
« Tu m'écoutes ?»
demanda soudain Moiraine, sa jument blanche venant se placer à côté du cheval de Rand.
« Tu dois... »
Elle se ressaisit.
« Rand, s'il te plaît, j'ai tant de choses à te dire, tant de choses que tu dois savoir. »
Le ton très discrètement implorant de la Aes Sedai incita Rand à se tourner vers elle. En des temps pas si lointains, se souvint-il, cette femme l'intimidait. Aujourd'hui, en dépit de ses manières de reine, elle lui semblait plus petite encore que nature. Si fou que ça puisse paraître, il éprouvait comme une envie de la protéger.
Nous avons beaucoup de temps devant nous, Moiraine. Je ne prétends pas en savoir aussi long que vous sur le monde, et j'ai bien l'intention de vous garder à mes côtés à partir de maintenant.
Quel changement, par rapport au temps où c'était elle qui le tenait au bout d'une laisse à laquelle elle ne donnait presque pas de mou. Pourtant, Rand avait à peine conscience de cette petite révolution.
Mais pour l'instant, quelque chose d'autre me préoccupe. Comme tu voudras. Au fond, c'est vrai, il nous reste encore du temps.
Rand talonna sa monture, et tous les autres le suivirent. Les chariots firent de leur mieux, mais sur la pente, ils prirent rapidement du retard. La cape multicolore d'Asmodéan, non, du trouvère Jacin Nathael, battit au vent derrière lui, comme l'étendard dont il avait calé la hampe dans un de ses étriers. Sur un fond rouge éclatant, l'antique symbole noir et blanc des Aes Sedai s'y affichait fièrement. Appréciant modérément d'avoir été bombardé porte-étendard, Nathael tirait franchement la tête. Selon la prophétie de Ruidéan, Rand était promis à conquérir sous cet emblème. Et avec un peu de chance, cet étendard plus discret effraierait moins les gens que celui du dragon, le drapeau de Loustérine qu'il avait laissé derrière lui au sommet de la pierre de Théar. Les taches sombres sur la muraille grise se révélèrent être des cadavres pendus aux remparts, tout autour de la ville, afin de pourrir au soleil. Les oiseaux, eux, étaient d'énormes corbeaux noirs et des vautours au bec et au cou poisseux de sang. Se fichant des nouveaux arrivants, les plus gros corbeaux continuaient à festoyer sur les dépouilles. Mêlés à des relents de chair carbonisée, une odeur de décomposition flottait dans l'air. Arrivé devant les portes ouvertes de la cité, Rand vit qu'elle n'était plus qu'un champ de ruines, où plus rien ne bougeait à l'exception des charognards.
« Comme à Marruois. »
Le jeune homme tenta de chasser cette pensée de son esprit, mais l'image de la grande cité y demeura gravée. Après qu'elle eut été reprise, ses immenses tours brûlées et effondrées, de grands bûchers avaient fini de se consumer à tous les coins de rue. On y avait brûlé vivants tous ceux qui s'étaient refusés à jurer allégeance aux ténèbres. Bien qu'il n'en eût pas parlé avec Moiraine, Rand savait très bien à qui appartenaient ces sinistres souvenirs.
« Je suis Rand Altor. Loustérine Telamon est mort il y a 3000 ans. Je suis Rand !»
Une bataille qu'il entendait gagner. S'il devait mourir au mont Shagulgul, ce serait sous son véritable nom, en étant lui-même. Pour l'heure, il préféra penser à autre chose. 15 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Ruidéan. Oui, 2 semaines, même si les aïels, à pied, avaient imposé du matin au soir un rythme qui avait fini par fatiguer les chevaux. Mais Kouladin était parti 1 semaine avant Rand, et si sa colonne n'avait pas gagné un peu de terrain, ce fou aurait 7 longs jours pour dévaster le Cairien. Plus que ça, en fait, car il faudrait un moment pour neutraliser les Shaido. Une idée qui n'avait rien de réjouissant.
« Sur ces rochers, à notre gauche, quelqu'un nous observe, »
dit l'âne d'un ton égal. Comme fasciné par les ruines de Tayen, il regardait fixement devant lui.
« Pas un ou des Aiel, parce que je ne m'en serais pas aperçu. »
Rand se félicita d'avoir fait en sorte qu'Egwen et Avienda restent avec les matriarches. Le triste sort de la cité lui donnait doublement raison, mais là où les sentinelles dont parlait l'âne étaient prévues dans son plan originel. Celui où il espérait encore que Tayen aurait été épargnée. Egwen était toujours vêtue comme Avienda, et 2 Aiel n'auraient pas été bien accueillis dans cette cité, encore moins par des survivants s'il y en avait. Se retournant, Rand jeta un coup d'œil au chariot qui s'était arrêté un peu derrière lui. Maintenant qu'il voyait clairement la muraille et ses sinistres ornements, les conducteurs marmonnaient dans leur barbe. Tout de blanc vêtus, Kadere s'épongeait le nez sans manifester d'émotion particulière. Rand aurait parié que Moiraine devrait se trouver d'autres conducteurs une fois la passe traversée. Dès qu'ils en auraient l'occasion, Kadere et ses hommes détaleraient sans demander leur reste, et ils devraient les laisser filer. Ce n'était pas normal, et encore moins juste, mais nécessaire pour protéger Asmodéan. Depuis combien de temps Rand faisait-il ce qui s'imposait, et non ce qui était moral? Dans un monde idéal, les deux notions auraient dû se confondre. Cette idée fit ricaner le jeune homme. S'il n'avait plus grand-chose à voir avec le gamin qu'il était naguère, un jeune paysan, il en restait toujours quelque chose en lui. Voyant que ses compagnons le regardaient, il résista à l'envie de leur annoncer qu'il n'était pas encore cinglé. Après de longues minutes, deux hommes en bras de chemise et une femme émergèrent de derrière les rochers. Pieds nus, en haillons, ils approchèrent d'un pas hésitant, les yeux balayant sans cesse les cavaliers et les chariots, comme s'ils s'attendaient à devoir filer au premier cri. Les joues creuses, le pas titubant, ces gens devaient crever de faim.
« Que la lumière soit remerciée !»
dit enfin un des hommes. Grisonnant, comme son compagnon et sa compagne, le visage parcheminé, il regarda d'abord Asmodéan, sans doute à cause de son col et de ses poignets rehaussés de dentelles. Mais il conclut vite que le chef d'une caravane ne pouvait pas chevaucher une mule et porter un étendard. Du coup, le type s'accrocha nerveusement à l'étrier de Rand.
« Monseigneur, vous êtes sorti vivant de cette terrible terre. Que la lumière en soit louée !»
Était-ce la veste bleue brodée de Rand? L'étendard qui l'accompagnait? De la pure flatterie? L'homme n'avait aucune raison de croire qu'il n'était pas face de simples marchands un peu mieux attifés que la moyenne.
« Ces sauvages ont recommencé. Nous allons vivre une nouvelle guerre des Aiel. De nuit, ils ont franchi notre muraille sans que nul s'en aperçoive. Ils ont perpétré un massacre et volé tout ce qui n'était pas fixé au sol. »«
Une attaque nocturne ?»
lança Matt, qui étudiait toujours les ruines.
« Vos sentinelles dormaient ? Vous en postez bien sur les remparts, en étant si près de l'ennemi. Avec de bons tours de garde, même les Aiel n'auraient pas dû entrer chez vous comme dans un moulin. »
L'âne gratifia le jeune homme d'un regard approbateur. S'avisant que la veste verte de Matt, digne d'un seigneur, était déboutonnée et froissée comme s'il avait dormi dedans, le vieil homme préféra répondre à Rand.
« Nous postons seulement un garde à chaque porte. Il y a beau temps que les sauvages ne se montraient plus. Mais là, ce qu'ils n'ont pas emporté, ils l'ont brûlé, nous condamnant à crever de faim. Si vous n'étiez pas arrivé, seigneur, nous serions morts ici. Je me nomme Tal Netin. « Cellier de mon état. Enfin, je l'étais. Un bon artisan, seigneur. Voici Aril, ma sœur, et Ander Cole, son mari. Un excellent bottier. »«
Ils ont aussi enlevé des gens, »
dit la femme d'une voix tremblante. Un peu plus jeune que son frère, elle avait dû être jolie dans un passé pas si lointain que ça. Mais l'angoisse avait creusé dans son visage des rides qui ne s'effaceraient sûrement jamais. Le regard un peu voilé, son mari semblait ne pas savoir exactement où il était.
« Ma fille, monseigneur, et mon fils, tous les jeunes de plus de 16 ans, et même des personnes qui avaient deux fois cet âge, voire plus, des « Gashan », je crois qu'ils ont dit. En tout cas, ils les ont déshabillés en pleine rue, puis ils les ont emmenés. Monseigneur, pouvez-vous ?»
Consciente qu'elle allait demander l'impossible, la femme se tut. En fait, il y avait très peu de chances qu'elle revoie un jour ses enfants. Sautant à terre, Moiraine vint se placer à côté d'Aril, qui sursauta et poussa un petit cri lorsque la Aes Sedai la toucha. Puis elle interrogea Moiraine du regard, mais celle-ci se contenta de la soutenir. Ander, le mari de la pauvre femme, ouvrit soudain la bouche en grand. Les yeux rivés sur la boucle de ceinture de Rand, un cadeau d'Avienda, il parvint à balbutier.
« Ses bras étaient marqués, comme ça, comme le serpent de la falaise, tout enroulé autour. »«
Il parle du chef des sauvages, seigneur. »
expliqua Tal.
Il portait l'étrange tenue des sauvages, mais les manches étaient coupées et on voyait ses bras. Il les exhibait même, pourrait-on dire.
Cette boucle est un cadeau que j'ai reçu dans le désert,
dit Rand. Il s'assura de garder les mains sur le pommeau de sa selle. Les manches de sa veste cachaient les dragons qu'il portait aussi sur les bras, à part les têtes, visibles sur le dos de ses mains pour quiconque était un peu observateur. Aril, ne pensant plus à se demander ce qu'avait fait Moiraine, les trois survivants semblaient sur le point de détaler comme des lapins.
« Quand sont-ils partis ?»
demanda Rand.
« Il y a 6 jours, seigneur. Il leur a fallu une nuit et un jour pour saccager la ville. Puis ils sont partis. Nous aurions bien filé aussi, mais que faire au cas où ils auraient décidé de rebrousser chemin ? Car à Céléan, on a dû les refouler, pas vrai ?»
Céléan se trouvait à l'autre bout de la passe, et sûrement pas en meilleur état que Tayenne.
Combien y avait-il de survivants en tout ?
Une centaine, peut-être un peu plus. Personne n'a compté.
Rand ne put plus contenir sa colère.
Vous êtes 100 et 6 jours ont passé ? Alors pourquoi vos morts sont-ils livrés en pâture aux charognards ? Que font ces cadavres sur les remparts ? Pourquoi leur puanteur remplit-elle encore vos narines ?
Nous avons peur,
tenta d'expliquer Tal.
Ils sont partis, mais ils peuvent revenir. Et leur chef, celui avec les marques sur les bras, nous a ordonné de ne toucher à rien.
Un message, souffla Ander sinistre. Il a sélectionné des gens au hasard pour les pendre. L'essentiel, c'était qu'il y en ait assez pour couvrir toute la muraille. Des hommes, des femmes, ils s'en fichaient.
Les yeux rivés sur la boucle de Rand, il ajouta.
« Un message pour l'homme qui le suivrait, a-t-il dit. Pour qu'il sache ce qu'il avait l'intention de faire de l'autre côté de la colonne vertébrale du monde, il a précisé qu'il infligerait à cet homme un sort encore plus terrible. »
Haryl écarquilla soudain les yeux. Les 3 survivants regardèrent un moment derrière Rand, puis ils se détournèrent et s'enfuirent en hurlant. Des aïels voilés de noir venaient de sortir de derrière les rochers pour s'élancer dans une autre direction. D'autres aïels apparurent, les encerclant, puis tous s'étreignirent, tombant à genoux et sanglotant à l'unisson. Moiraine ne broncha pas, mais une vague inquiétude voila son regard. Rand se tourna sur sa selle. Tout en abaissant leurs voiles et en défaisant leurs choufas, Rouark et Déharic gravissaient la pente. Ses cheveux blonds striés de mèches presque blanches, le nez proéminent, Déharic était plus massif que Rouark. Comme ce dernier l'avait prédit, ce chef était venu avec ses reines. Timolan et ses Miagoma les avaient accompagnés vers le nord, suivant une route parallèle, en envoyant des messages, mais sans jamais préciser leurs intentions. Les Kodara, les Chiandé et les Darin étaient encore quelque part à l'est. Selon Amis et les autres matriarches capables de marcher dans les rêves, ils suivaient, mais lentement. Et les matriarches à qui Amis avait parlé n'en savaient pas plus long sur les intentions de leur chef que Rand sur celles de Timolan.
« C'était vraiment nécessaire ? »
demanda-t-il quand les 2 chefs arrivèrent près de lui. Il avait lui aussi effrayé ses gens, mais pour une bonne raison, et sans jamais leur laisser penser qu'ils allaient mourir. Rouark se contenta de hausser les épaules.
« Nous avons encerclé cette place forte sans qu'on nous voie, comme tu nous l'as demandé, et il semblait n'y avoir plus aucune raison de nous cacher, puisqu'il ne reste plus personne pour danser avec les lances. De toute façon, ce sont des tueurs d'arbres. »
Rand ravala un profond soupir. Cette affaire de tueurs d'arbres pouvait se révéler aussi gênante que la sédition de Kouladin. Quelques 500 ans plus tôt, les Aiel avaient offert aux Caïriennes une bouture d'Avendessora, et par la même occasion, le droit de traverser la tierce terre pour gagner Shara, un privilège refusé à toute autre nation. Pourquoi cette générosité ? Alors qu'ils n'appréciaient guère les habitants des Terres Mouillées, et c'était peu de le dire, il s'était agi d'une affaire de Gieto. Durant les longues années de voyage qu'il leur avait fallu pour atteindre le désert, un seul peuple ne les avait pas attaqués, consentant même au partage de l'eau alors que la sécheresse devenait un fléau. Bien des siècles plus tard, les Aiel avaient découvert les descendants de leurs bienfaiteurs, les Kairieniens. Pendant 500 ans, la soie et l'ivoire avaient apporté la prospérité aux Kairiennes. Et Avendor Aldera avait grandi dans ce pays. Puis le roi Laman avait coupé l'arbre pour se faire fabriquer un trône. Toutes les Terres Mouillées savaient pourquoi les Aiel, 20 ans plus tôt, avaient traversé la colonne vertébrale du monde. À cause de la faute de Laman, motivée par sa fierté. Mais fort peu de gens avaient conscience que pour les Aiel, il ne s'était pas agi d'une guerre. 4 tribus étaient venues pour tuer un parjure, puis elles étaient retournées dans la tierce terre. Mais ça n'avait pas mis un terme à leur mépris pour les tueurs d'arbres. La qualité d'Aes Sedai de Moiraine compensait ses origines kairieniennes, mais Rand n'aurait su dire jusqu'à quel point.
« Ces gens ne sont pas des parjures, »
dit-il.
« Trouvez les autres. Selon le cellier, ils sont une centaine. Traitez-les bien, surtout. Si certains vous ont vu, ils doivent être en train de s'enfuir dans les montagnes. »
Les 2 Aiel se détournèrent, mais Rand les rappela.
« Avez-vous entendu ce qu'ils m'ont dit ? Que pensez-vous du comportement de Kouladin ?»«
Trop de meurtres, »
fit Déharic, l'air révulsé.
« Comme des furets noirs qui fondent sur un nid de poules de roche, au fond de ravins. »
Comme le disaient les Aiel, tuer était aussi facile que mourir, puisque n'importe quel imbécile pouvait faire les 2.
« Et les prisonniers ? Des Gaïshain ?»
Rouark et Déharic se consultèrent du regard, le second ayant une moue amère. À l'évidence, ils avaient entendu, et ça les mettait mal à l'aise. Et pour qu'un Aiel réagisse ainsi, il en fallait beaucoup.
« Ce n'est pas ainsi, »
dit enfin Rouark.
« Gaïshain, eh bien, ça implique le Jieto. »
Quelqu'un qui ne suit pas le Jietto ne peut pas devenir un Geishain. Sinon, il s'agit simplement de bétail humain, comme on en trouve à Shara. Kuladin s'est détourné du Jietto,
dit Déharic, troublé comme s'il venait d'annoncer qu'il poussait des ailes aux pierres. Jouant des genoux, Matt fit avancer Pépin et rejoignit le petit groupe. Sans grande passion pour l'équitation, il n'avait rien d'un cavalier émérite. Pourtant, quand il pensait à autre chose, il lui arrivait de chevaucher comme s'il était né sur le dos d'un étalon.
« Ça vous étonne ? »
pensa-t-il.
« Après tout ce qu'il a fait d'autre, ce type serait capable de tricher au dé en jouant avec sa mère. »
Les deux chefs foudroyèrent du regard le jeune impertinent. Les Aïels s'identifiaient au Jietto, et Kuladin, à leurs yeux, restait un Aïel. Le clan avant la tribu avant les autres tribus. Mais le peuple Aïel bien avant les habitants des Terres Mouillées. Quelques promises se joignirent au petit groupe, dont Adeline et Naïla, Jolienne et Souline, une mince femme aux cheveux blancs choisie pour être la maîtresse du toit des promises à Rudéane. Après avoir dit aux guerrières restées en arrière de nommer une autre maîtresse, elle dirigeait celle qui accompagnait Rand. Sentant la tension ambiante, les promises ne dirent rien et enfoncèrent dans la terre la pointe de leur lance. En matière de patience, les Aïels pouvaient en remontrer aux pierres, affirmait-on.
« Si Kuladin pense que tu le poursuivras, »
dit Lan,
« il risque de te laisser une surprise quelque part dans la passe. 100 hommes pourraient empêcher une armée d'avancer. Et 1000... »« Nous allons camper ici, »
coupa Rand,
« et envoyer des éclaireurs s'assurer que la voie est libre. Douadé Madihin ?»«
Des sorciers, oui, »
approuva Déharic, originaire de cet ordre de guerriers avant de devenir chef de sa tribu. Tandis que le chef des Reines s'éloignait, Souline et les autres promises jetèrent des regards noirs à Rand. Ces 3 derniers jours, il avait choisi des éclaireurs parmi d'autres ordres, quand il avait commencé à redouter ce qu'il risquait de trouver ici. À l'évidence, les promises se doutaient qu'il ne s'était pas contenté de donner son tour à tout le monde. Il tenta d'ignorer leurs regards, surtout celui de Souline, assez dur, aurait-on dit, pour transpercer de l'acier.
« Rouark, quand vous aurez retrouvé les survivants, assure-toi qu'on les nourrisse. Nous les emmènerons avec nous. »
Rand leva les yeux vers la muraille. Des aïels tiraient déjà à l'arc sur les corbeaux. Parfois, les créatures des ténèbres utilisaient ces oiseaux et d'autres charognards comme espions. Les yeux des ténèbres, comme les appelaient les aïels. Cela semblait surtout vouloir festoyer, et il fallait qu'une flèche les transperce pour qu'ils cessent. Mais un sage ne prenait jamais aucun risque avec les corbeaux et les rats.
« Ordonne aussi que les morts soient enterrés. »
Au moins, sur ce point, la nécessité et la morale se rejoignaient.